Bonjour Dominique, bonjour à tous. On se retrouve aujourd'hui pour parler du fait que souvent on veut être un autre. D'où ça vient?
Bonjour Pyrène, bonjour à ceux et celles qui nous écoutent. Alors, c'est un sujet qui est fort intéressant. Pourquoi est-ce qu'un individu cherche tant à vouloir être un autre? Ben, ça parle du non-amour de soi, ça parle de failles narcissiques, ça parle d'un déficit identitaire. Et ça, pour moi, c'est une névrose de base qui est partagée par l'humanité, à savoir que tels que nous ne sommes pas suffisants.
D'accord.
Et que tous les protocoles éducatifs vont dans ce sens-là. C'est-à-dire que très très tôt, là, il est dit à l'enfant que tel qu'il est, eh bien, il va falloir ou qu'il grandisse, ou qu'il se développe, ou qu'il apprenne, ou qu'il fasse des efforts. Voilà. L'environnement de l'enfant ne lui enseigne pas, hein, que tel qu'il est, il a déjà en lui toutes les ressources, hein, et qu'il faut impérativement qu'il fasse l'acquisition des choses. Donc, il y a toute une éducation de l'effort qui a des vertus, mais qui génère aussi beaucoup de dommages, dont celui que nous allons aborder dans ce podcast, à savoir que tel que je ne suis pas suffisant et je vais mettre beaucoup de mon énergie à vouloir être un autre. Et ça rejoint quelque chose que je vérifie au quotidien, à savoir que nous ne faisons pas face à la réalité. Hein? Nous voulons vivre autre chose que ce que nous vivons. Alors, ce que nous appliquons à l'environnement, nous l'appliquons à nous-mêmes.
D'où nous vient cette contrainte de perfection que l'environnement exerce sur nous ou qu'on s'inflige?
La genèse des sujets que nous abordons, à savoir que tel que je ne suis pas suffisant, eh bien, a pour corollaire cette contrainte de perfection, qui est une contrainte éducative, c'est-à-dire que l'être humain a tendance et a eu tendance depuis les millénaires à s'idéaliser plutôt que d'assumer sa réalité. C'est-à-dire que Pascal l'a dit, nous sommes mi-ange, mi-bête, mais il n'y a pas grand monde sur la planète qui accepte la bête qui est en lui. Donc cette angélisation, elle a bonne presse, et beaucoup d'entre nous nous engouffrons dans cette fiction que nous pourrions un jour atteindre à cette perfection qui n'est pas du registre du vivant, qui est du registre du fantasme. La réalité, c'est que nous sommes des êtres imparfaits, que nous sommes en tension entre nos pulsions animales, si je puis dire, et notre éducation d'être civilisé, hein, que ceci nous met en tension et que si nous cessions d'alimenter un idéal du moi, nous pourrions peut-être être en accord avec qui nous sommes profondément.
Ce n'est pas un naturel chez l'être humain que de vouloir plus cette contrainte de perfection, est-ce qu'elle n'est pas naturelle?
Ah non, la contrainte de perfection, elle est comment dire, elle résulte d'une fiction éducative. Mais ce n'est pas naturel. La perfection n'est pas naturelle.
Donc au cours des siècles, cet idéal se transmet alors que il n'est
Ben,
pas.
un idéal, ce n'est pas une réalité. Une idéalisation, c'est un déni de la réalité. Quand il y a une situation qui ne nous plaît pas et quand il y a quelque chose qui ne nous plaît pas en nous, alors on a un trait physique ou un trait de caractère qui nous déplaît, eh bien on va tenter de le gommer. Mais on ne peut pas gommer des traits
Non.
physiques, sauf à avoir recours à des artifices.
Alors, l'être humain qui s'est aperçu que il pouvait changer de comportement ou avoir une incidence sur le monde qui l'entoure, il y prend goût. Et c'est
Oui.
est-ce que c'est pas dans la nature même de l'être humain que de chercher à transformer son environnement?
Alors, transformer son environnement, oui. Si je suis paysan, je vais transformer ma terre en la défrichant, en labourant, en semant des graines pour pouvoir faire une moisson plus tard. Et bien sûr que l'être humain, il a vocation à transformer les choses, mais pas à les idéaliser, parce que idéaliser les choses, c'est réprimer la réalité.
Pourquoi idéaliser les choses, c'est réprimer la réalité ?
Eh bien, par exemple, imaginons que j'ai un tempérament colérique, des sautes d'humeur, et que je suis en conflit avec ce trait de caractère. Dans l'idéal, je ne devrais pas être colérique. Dans l'idéal, je ne devrais pas avoir de sautes d'humeur. Mais la réalité qui s'impose à moi, c'est que effectivement, j'ai des accès colérique. Alors qu'est-ce que je fais avec ça ? Eh bien, je fais beaucoup d'efforts pour être un autre. Et c'est ça qu'on appelle vouloir devenir un autre. Ça ne peut pas se transformer. Il s'agit d'accepter que j'ai des sautes d'humeur, que je peux me montrer colérique, et de voir quelle est la fonction de ces sautes d'humeur. Quelle est la fonction de ce tempérament colérique ? Voilà, et que la chose pourra se transformer à partir du moment où j'en aurai compris la fonction. Si les choses existent, c'est qu'elles ont un sens.
D'accord, donc la transformation, c'est accepter ce qui est.
Oui, parce que...
Sinon,
c'est pas possible. Parce qu'à partir du moment où vous acceptez ce qui est, vous n'allez pas vous construire en opposition à ce qui est, mais compte tenu de ce qui est, qu'est-ce qu'il est possible de réaliser ? Imaginons quelques instants, vous héritez d'un lopin de terre.
Bon, j'aimerais bien.
Oui. Et bien, ce lopin de terre, vous allez analyser la qualité de la terre. Vous allez regarder si elle est humide, si elle est argileuse, si elle est sableuse, ou si c'est de la glaise. Et en fonction de la nature de la terre, vous allez pouvoir, planter certaines espèces. D'autres ne pourront pas prospérer dans cette terre-là. Donc pour moi, il ne s'agit pas de construire en opposition avec la réalité objective qui s'impose à moi, mais à partir de cette réalité objective, qu'est-ce qu'il est possible ? Vous ne pouvez pas transformer une de chevaux en Ferrari, sauf à des manipulations exponentielles. Mais ce ne sera jamais une Ferrari.
Vous pouvez nous en dire plus sur cette contrainte de perfection qui nous habite ?
Oui, parce que cette contrainte de perfection, pour moi, c'est une peste psychique. J'entends par là que la perfection est inatteignable. Et chaque fois que vous faites des efforts pour tenter de l'atteindre, l'horizon recule. Donc, ça va permettre à l'angoisse de castration de prospérer. On n'est jamais à la hauteur de sa contrainte de perfection. Jamais. Et c'est ce qui va entraîner des déficits narcissiques. Comme je ne peux pas être parfait, ben, je ne suis pas quelqu'un de bien. Et comme je ne suis pas quelqu'un de bien, ben, il faut que je redouble d'efforts pour devenir quelqu'un de bien. Et c'est une fiction. Au lieu d'assumer qui je suis avec mes ressources, mes talents, mes potentialités, qui font que je suis dans la réalité et que je peux construire à partir de ce que j'ai et non pas construire à partir de ce que je n'ai pas et de ce que je ne suis pas.
Et de ce que je voudrais être. Vous avez cité l'angoisse de castration.
Oui.
Quel est le rapport ?
Ah, ben, l'angoisse de castration, vous pensez bien que c'est ce que l'on appelle en termes plus communs la peur de ne pas être à la hauteur. Mais elle est générée, cette peur de ne pas être à la hauteur, par cette contrainte de perfection qui nous est imposée par la culture dominante depuis des siècles. Nous ne serons jamais à la hauteur de cette fiction que l'on nous impose, qui est la perfection.
Cette contrainte de perfection, on la retrouve donc au niveau individuel, mais aussi au niveau du collectif.
Oui.
Qu'est-ce qui fait que elle prend toute cette ampleur et que collectivement on ne se rend pas compte qu'on est tous dans une quête d'un monde idéal ?
Parce qu'il est beaucoup plus facile d'idéaliser, donc de créer une fiction, plutôt que d'assumer la réalité. Depuis le temps que l'humanité aspire à un monde idéal, égalitaire, juste, nous pouvons nous poser la question, qu'est-ce qui fait qu'au XXIe siècle, on n'a toujours pas atteint cet idéal ? Parce que ce n'est pas une réalité. C'est une fiction. Et que la maturité d'un collectif comme d'un individu repose sur son rapport à la réalité. Et je reviens à ce principe qui pour moi est très important. Compte tenu de la réalité, qu'est-ce qu'il est possible de réaliser ? Plutôt que de vouloir construire à partir de quelque chose qui n'est pas, qui n'existe pas.
Pour moi, l'idéalisation, c'est un moyen de faire des expériences qui nous rapprochent de qui on est. Qu'est-ce que vous en pensez ?
J'ai un point de vue différent. Je considère que s'idéaliser, c'est mettre à distance ce que nous sommes. Et que je privilégie de rencontrer qui je suis, y compris dans les zones les plus obscures de ma vie psychique, de manière à pouvoir les assumer et de pouvoir les transformer. Donc l'idéalisation, pour moi, c'est vraiment la façon que l'homme a utilisée pour mettre à distance des réalités qui lui sont propres et qui n'est pas prêt à assumer. Et c'est très facile à voir. Vous savez, enfin, il me semble qu'un être humain, normalement constitué, il a envie d'être quelqu'un de bien, il a envie d'être généreux, il a envie d'être intègre, d'être honnête, d'être bienveillant. Oui, sauf que comme la condition humaine nous inscrit dans des polarités, il est à la fois malhonnête, il est aussi malveillant et il est aussi avare. Donc qu'est-ce qu'il fait de cette dimension-là ? Oui, et l'idéalisation, au lieu de mettre du « et », je suis et colérique et très paisible, voilà, au lieu de mettre du « et », on est dans où on oppose ça. Il y a une obligation éducative depuis culturelle, hein, depuis des siècles, des millénaires, je dirais, à opposer.
Les polarités.
C'est-à-dire, il y a ce personnage social qui a besoin d'être, qui dépend du regard des autres. Alors, bien sûr, il y a une obligation de perfection à satisfaire, mais qu'est-ce qu'on fait de la polarité opposée à toute cette perfection ? Qu'est-ce que ça devient ? C'est pour ça que le monde idéal auquel aspire l'humanité depuis des millénaires, ben, il n'advient pas. L'actualité du jour nous montre bien que ce monde idéal n'existe pas. Il y a une réalité qui nous rattrape toujours. Et donc, nous aurions tout intérêt, en tant qu'individu comme en tant que société, nous aurions tout intérêt à nous intéresser à cette réalité que nous mettons à distance et qui nous constitue. L'homme moderne considère qu'il est un produit fini. Mais non, c'est un organisme vivant qui évolue.
Oui, et pour moi, cette quête d'idéal nous amène à nous transformer. Et c'est pour ça que je tombe un peu des nues quand vous dites que l'idéal n'est pas forcément la solution. Au contraire, vous dites que c'est l'acceptation de qui on est. Mais si, par exemple, à 16 ans, je m'étais acceptée telle que j'étais, c'est-à-dire peut-être ingénue, avec peu de motivation, est-ce que je serais devenue l'adulte que je suis, sans avoir cette quête d'idéal ?
Peut-être que votre perception de l'idéal est différente de la mienne. Hein ? Ça me paraît évident. Je suis en train d'aborder avec vous l'utilisation de l'idéalisation à des fins d'opérations de blanchiment qui aboutissent à vouloir être un autre. Voilà. Pour moi, vouloir être un autre, c'est se renier soi. Vous pouvez faire des opérations, j'appelle ça des opérations Ripollin, hein, c'est-à-dire vous pouvez dissimuler votre ombre, bien évidemment. Mais à un moment donné, ce que vous avez dissimulé à vous rattraper.
Oui.
Donc c'est vain. Alors, vous êtes en train de parler de quand un adolescent a un idéal, oui, mais si cet idéal éloigne de la réalité, à un moment donné, la réalité dont il s'est éloigné va la rattraper.
Oui, mais pour moi, l'idéal, c'est pas forcément s'éloigner de la réalité. C'est-à-dire que je peux avoir conscience que je suis colérique et également paisible et vouloir, enfin, avoir envie de maîtriser les deux. Dans l'idéal.
Oui, dans l'idéal, ça aussi c'est une contrainte de perfection maîtrisée. L'être humain ne maîtrise rien, à part ses sphincters, il ne maîtrise rien. Maîtriser, c'est accepter. L'étymologie même du mot maîtrise, c'est accepter, ce n'est pas contrôler. Et c'est bien ce que je dis, l'idéalisation, telle qu'elle est utilisée par nos contemporains, c'est un moyen de ne pas accepter la réalité et de la maquiller.
Moi, j'associe idéalisation à rêverie.
Vous associez un mot qui est particulier, qui est celui du rêve. Le rêve, c'est une fonction naturelle de la psyché, l'idéalisation, non. Et donc, il y a un dérapage. L'enfant qui a 4 ans et qui rêve d'être astronaute, c'est de l'imagination. Ce n'est pas de l'idéalisation. Et l'imagination, ça fait partie des talents de l'être humain. Et ce n'est pas pareil que l'idéalisation. Vous voyez, autant le rêve et l'imagination sont des activités naturelles de la psyché humaine, autant l'idéalisation est un pur produit de la culture, de l'éducation.
D'accord. Est-ce que vous pouvez nous éclairer sur la différence entre idéalisation et projection ?
C'est difficile pour moi parce que c'est pas du même registre. Donc je vais élaborer en même temps que j'entends la question pour la première fois. Quand un individu idéalise, il met à distance une réalité qui ne lui convient pas. Et oui, effectivement, toutes ces réalités que nous mettons à distance, eh bien, nous en délestons par le biais de la projection sur l'environnement. Et c'est peut-être la raison pour laquelle cette accumulation de projections peut nous indiquer le pourquoi ce monde idéal ne peut pas être atteint.
Vous pouvez préciser ?
Oui. Quand je parle de ces réalités internes que nous mettons à distance, ce sont toutes les composantes qui dérogent à notre idéal narcissique, à l'idéal du moi.
C'est notre ombre.
C'est notre ombre, hein, notre ombre personnelle. Et donc, à force d'accumuler, ces répressions, eh bien, à un moment donné, nous nous en délestons en les projetant à l'intérieur. C'est-à-dire que la méchante, c'est pas moi. Je la vois à l'extérieur, mais je la vois pas. Voilà, la malhonnête, je la vois à l'extérieur, mais je la vois pas en moi. Donc, imaginez que 7 milliards d'individus projettent leur ombre sur le monde. Eh bien, vous comprenez pourquoi le monde idéal est inatteignable. En conclusion, ce que je pourrais dire par rapport à votre question, qui est quelle différence je fais entre projection et idéalisation, ben, là où j'en suis rendu de mon raisonnement, c'est projection et idéalisation. Ce sont deux mécanismes de défense qui nous permettent de mettre à distance les réalités que nous ne sommes pas capables d'assumer.
Il est clair que c'est un sujet prédominant dans l'actualité, puisque on a tout ce mouvement d'influenceurs, influenceuses qui induisent chez les jeunes des transformations qui vont sur des transformations physiques majeures. Comment sortir de cette contrainte de perfection dominante ?
Ben, vous faites référence à une des manifestations de ce que j'appelle la tyrannie de l'image. Hein, et cette tyrannie de l'image, elle est directement liée à cette contrainte de perfection qui nous oblige à souscrire à des impératifs esthétiques qui sont fort éloignés ce que nous sommes, de ce que nous possédons. Et donc, on voit bien que cette tyrannie de l'image, elle va entraîner, tyrannie de l'image associée à la contrainte de perfection, elles sont, c'est indissociable. Hein. Ça va amener des dépréciations du moi, ou des inflations narcissiques. Donc, nous ne sommes plus dans la réalité, nous sommes dans une fiction. Et une fiction, je le rappelle, dont nous ne pouvons pas être à la hauteur. Et quand vous n'êtes pas à la hauteur de votre fiction, eh bien, vous pouvez très bien tomber dans ce que j'appelle la dépréciation narcissique. C'est-à-dire vous morfondre sur ce que vous êtes, et vous n'êtes que ça. Donc cela veut dire que cette tyrannie de l'image, si nous y souscrivons, et Dieu sait si elle est massive, eh bien, nous nous laissons définir par des représentations parfaites de ce que nous devrions être. La mode participe à ça à plus ou moins grande échelle, et on voit bien aussi aujourd'hui tout ce qui est la chirurgie plastique à un âge de plus en plus avancé, qui témoigne de ce que, dès le plus jeune âge, eh bien, il y a un conflit entre ce que je suis, ce dont la vie m'a doté, comment la vie s'est organisée pour faire de moi un être unique, et celui que je voudrais être pour pouvoir satisfaire à des contraintes sociales, esthétiques, culturelles. Et là, vous voyez bien que c'est une perte d'autonomie psycho-affective qui est extrêmement préjudiciable pour un être humain.
Cette idéalisation du moi, cette contrainte de perfection qui se met en place dès le plus jeune âge, en fin de compte, comment on pourrait, à un niveau collectif, remédier à ça? Comment on peut éviter ça?
Ça supposerait d'envisager un monde idéal où il y aurait un environnement soucieux d'accompagner le petit enfant dans faire connaissance avec lui et apprécier ce dont la vie l'a doté. Bon, mais ça, ce serait idéaliser le monde. La réalité, c'est que nous vivons dans des environnements qui sont, comment dire, qui veulent préserver leur représentation idéalisée du monde, et que, eh bien, collectivement, individuellement, nous sommes encouragés à satisfaire cette idéalisation. Et il serait nécessaire que la collectivité humaine prenne conscience de la vanité de cette idéalisation et qu'elle fasse un grand retour à la réalité. Il se trouve que ce n'est pas la réalité à laquelle je suis confrontée au quotidien. Voilà. Moi, dans l'idéal, j'aimerais un monde où il n'y ait pas de guerre. Dans l'idéal, eh bien, il ne devrait pas y avoir de pauvres. Dans l'idéal, il ne devrait y avoir que des gens en bonne santé. Dans l'idéal, il ne devrait y avoir que des gens bienveillants. Ce n'est pas la réalité à laquelle nous sommes confrontés dans notre condition humaine. Et la question que vous posez, c'est de savoir comment est-ce que ça peut changer. Eh bien, je crois avoir répondu plusieurs fois dans les précédents podcasts à cette question. C'est réaliser la conjonction des opposés, réaliser que la condition humaine, c'est pas ou bienveillance ou malveillance, c'est et malveillant et bienveillant. C'est guerre et paix. Voilà. Donc la réponse, elle est très philosophique, très métaphysique. C'est sortir de la division.
Et accepter la dualité de la vie.
Et accepter la dualité et l'assumer. Parce que l'accepter, c'est une première étape, mais assumer que chacun d'entre nous, nous sommes des êtres inscrits dans cette dualité dès le plus jeune âge. Ça commence par moi et l'autre. Alors il y a moi et l'autre à l'extérieur, et puis il y a le moi et l'autre au-dedans avec l'on, dont nous avons déjà parlé. Voilà. Et comme on ne sait pas, vivre cette bipolarisation de la psyché, eh bien, qu'est-ce que nous avons inventé? L'idéalisation. Et cette idéalisation a mis à distance des éléments constitutifs de notre psyché, notre intériorité, que nous n'assumons pas. Et ce que nous n'assumons pas, ça finit toujours par nous rattraper. Vouloir être un autre, c'est une névrose de base qui est partagée par l'ensemble de l'humanité, j'ai envie de dire. Or, qui dit névrose, dit déformation de la réalité. Et pourquoi nous déformons la réalité? C'est parce que nous privilégions ce qui n'est pas au profit de ce qui est.
Il me semble que c'est une belle conclusion. Merci Dominique, merci à tous pour votre écoute et on se retrouve pour le prochain podcast le mois prochain.
Merci Pyrène et merci à nos auditeurs.